débattre autour de l'actualité de la semaine avec des journalistes. C'est le rendez-vous de la Tribune de la Presse que vous propose Radio Capi. Nous sommes vendredi 17 avril 2015. Et au sommaire, c'est parti pour le dépôt des candidatures en vue des élections provinciales en République démocratique du Congo. À Goma, la première journée a suscité un certain engouement, ce qui n'était pas le cas dans les autres villes comme Mbandaka et Kinshasa. Et puis, les Congolais résidant dans la ville de Durban en Afrique du Sud sont victimes ces temps-ci des actes xénophobes entretenus par le chef coutumier de la tribu Zoulou. Comment analyser ces deux actualités de la semaine? Nous en parlons ce soir avec Fidel Moussangou, coordonnateur au journal Le Phare, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Fidel, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Freddy Mwamba, journaliste à la radio-télévision par satellite RTVS1, un média qui est né aussi ici à Kinshasa. Freddy, bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Ipani, journaliste correspondant du journal L'Observateur, mais basé à Kikwit. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de cette semaine avec vous, Guy Maté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. La presse kinoise de cette semaine s'est focalisée notamment sur les débuts des dépôts de candidatures pour les élections provinciales et sur la xénophobie en Afrique du Sud. La prospérité titre en manchette, élections provinciales, c'est parti. Les quotidiens rapportent qu'aucun engouement particulier n'est encore observé dans les différents sièges des partis politiques à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Pour les tabloïdes, le début timide de l'opération des dépôts de candidatures des élections provinciales paraît comme si la CENI a pris les formations politiques à contre-pied, estimant que beaucoup d'entre elles ne s'attendaient pas à ce que la CENI tienne parole. Avec le lancement de cette opération, la prospérité est d'avis que la CENI est en passe de réussir un premier pari, même si la plupart des candidats députés provinciaux trouvent les temps impartis pour les dépôts de candidatures très court dans un pays immense, pratiquement sans infrastructures appropriées. Provincial, l'opposition en désordre des batailles, titre à ce sujet Forum des As. C'est dans le quotidien, au moment où les sociétaires de la majorité présidentielle ont levé l'option d'une participation conséquente, ceux de l'opposition se consacrent à autre chose. Forum des As indique que d'autres forces politiques de taille comme l'UNC, les CID, le MPCR, le RCDKML, le FONUS, le MLP et d'autres préfèrent garder un silence assourdissant. Les quotidiens estiment que ces partis de l'opposition préfèrent ne pas s'engager dans les processus afin d'obtenir l'amendement du calendrier électoral comme ils exigent depuis plus d'un mois. Ils avaient demandé à la CENI de renvoyer les élections locales, municipales et urbaines après 2016 pour permettre au pays de se consacrer à la présidentielle et aux législatives prévues fin 2016. Le journal L'Avenir titre « Processus électoral, Malumalu renvoie l'opposition aux études ». Les quotidiens rapportent que Malumalu est formel concernant les débats sur les propositions de modification ou d'ajustement du calendrier électoral, comme souhaitent certains politiques en affirmant que l'élaboration et la publication du calendrier est une prérogative de la CENI. Devant un parterre des journalistes, indique les tabloïdes, le président de la CENI a assuré que le financement des élections congolaises n'est posé aucun problème. Sur un autre chapitre, Radio Capi.net rapporte que l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Bene Poko, condamne les exactions contre les étrangers dans la ville de Durban. Dans une interview accordée jeudi 16 avril à Radio Capi, il a déploré la passivité de la police face à ces atrocités qui, selon lui, n'ont pas leur raison d'être. C'est depuis environ deux semaines que des violences contre les étrangers sont enregistrées dans la ville de Durban en Afrique du Sud. Les nationaux accusent les immigrés d'être à la base des chômage et de la hausse des taux de criminalité. Les bilans officiels font état de 6 morts selon RFI. Entre-temps, le président Jacob Zuma appelle au calme et à la fin des attaques xénophobes.
Merci Guy Maté. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité de la semaine, nous avons compté 30 jours mercredi 15 avril dernier depuis que trois activistes congolais de la démocratie accusés d'insurrection sont toujours détenus par les services de sécurité à Kinshasa. Leurs conseils et membres de famille affirment n'avoir pas accès à eux pour organiser leur défense ou les assister. Et à Goma, au Nord Kivu, quatre jeunes du mouvement citoyen de Lucha, lutte pour les changements, arrêtés le 7 avril dernier, ont été transférés à la prison centrale de Mounzenzi. Ils ont été arrêtés pour avoir demander la libération de leurs collègues détenus ici à Kinshasa. Je me tourne vers mes invités. Fidel Moussangou, je rappelle que vous êtes coordonnateur au journal Le Phare, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'avocat conseil des activistes de la démocratie affirme qu'il n'est pas en contact avec les détenus. Qu'en pensez-vous?
Alors, vous savez, c'est encore un acte malheureux et très condamnable parce que on ne peut pas jouer avec la liberté des gens. La vie est un don de Dieu. Et personne ne peut s'amuser à jouer avec la vie de quelqu'un. Surtout avec la vie des enfants des autres. Ceux qui posent ces actes là-bas doivent se poser la question. S'il arrivait qu'on pose les mêmes actes contre leurs enfants, quelles seraient leurs attitudes? Ce sont des Congolais qui ont droit à la vie. Vous avez arrêté les gens soi-disant qu'ils ont participé, ils ont monté un coup de tabouille, la terreur. Mais dès que Macky Sall a tapé sur la table, on a libéré les Sénégalais et ils sont partis. Vous regardez les terroristes congolais, vous faites partie des terroristes étrangers. Il s'agit d'une arrestation arbitraire, condamnable. Et si j'en appelle au président de la République en tant que garant de la nation, symbole d'unité nationale, pour ordonner la libération sans condition de ces actifs de droits d'homme.
Merci. Alors, Freddy Mwamba, vous êtes journaliste à la radio-télévision par satellite RTBS1. Quelle est votre analyse sur ce dossier?
Je préfère plutôt analyser ces dossiers froidement. Hein. Mm-hmm. Je ne peux pas me permettre de dire qu'ils ont été arrêtés arbitrairement parce que c'est la justice qui est, en fait, habilitée après enquête de voir s'ils ont été arrêtés
arbitrairement
ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est que par rapport à ces activistes pro-démocratie, c'est que il n'était pas important que nous puissions recevoir ici au pays des gens qui viennent de l'étranger pour nous sensibiliser sur des choses que nous-mêmes nous étions capables de faire. Par exemple, il y avait la psychose ici à travers la ville. Les Congolais
s'étaient
déjà pris en charge. Par rapport à l'activité, moi j'estime que il n'était pas important qu'ils viennent. Mais ils sont quand même venus. On ne peut pas les interdire. Conforter peut-être cette dynamique qui avait déjà commencé, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais les arrêter, moi je pense que ce n'était pas bon qu'on puisse en fait les arrêter.
D'accord. Mmh. Alors Frédéric Ipani, vous êtes correspondant du journal Observateur basé à Kikwit. Est-ce que vous comprenez la démarche du gouvernement qui accuse ces activistes de faire la promotion de la violence en vue d'une insurrection?
Berry, moi je crois que ça ne doit pas se faire de cette façon-là. Ces gens, ils ont été arrêtés. Une fois arrêtés, normalement, on devait les transférer, disons, les présenter devant le juge pour qu'on puisse les entendre sur les faits pour lesquels on les a arrêtés.
Mm-hmm.
Mais les garder en prison, moi je pense, comme l'a dit Fidel Moussaou tout à l'heure là, ces gens sont en train de mettre Kabila en difficulté. Et normalement, Kabila, comme président lui-même, il est en mesure de s'interposer. Plus de deux, c'est leurs amis, les Sénégalais et les Burkinabés. Ils ont été libérés. Pour quelles raisons ces gens doivent encore rester en prison? De trois, Berry, nous nous approchons des élections aussi. Hein? Il faut qu'il y ait du calme.
Alors rapidement, Frédéric, aujourd'hui on a compris votre position, mais quelle est l'actualité qui fait la une chez vous à Kikwit en ce moment?
Berry, l'actualité à Kikwit, je peux dire que c'est cette vive tension qui monte depuis quelques jours au quartier Ngulunzamba à Kanzombi, c'est dans la commune de Lukemi,
mm-hmm.
où 60 000 habitants manquent d'eau et d'électricité. Ils se bousculent tous les jours devant trois fontaines d'eau, dont d'un acteur politique du coin. Alors, cette population est également coupée du centre-ville par manque de route. Il n'y a pas de route. Et l'unique route, l'unique avenue qui reliait Kanzombi, cette partie périphérique de la ville, à la ville par le pont Kwilu, pour ceux qui connaissent la ville de Kikwit, s'est vite transformée en un ravin de plus de 10 mètres de profondeur.
Merci beaucoup. Alors, l'autre actualité, un peu rapidement, c'est ce nouveau massacre des populations civiles perpétré mercredi dans le territoire des Béni. Le bilan fait état de plus de 15 personnes tuées à l'arme blanche, selon le président de la société civile locale. Alors, Freddy Mwamba, il y a eu plusieurs stratégies qui ont été mises en place pour mettre fin à ces exactions et force est de constater que ces stratégies posent problème. Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense qu'il faudra qu'on puisse renforcer notre service de renseignement dans ce coin de la République parce que Béni est devenu depuis un temps une poudrière dangereuse. Il y a des gens qui meurent là-bas. À un certain moment, on parlait même des chebabs qui s'est retrouvé dans ce coin, dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc, il faudra que les autorités puissent renforcer davantage. S'il faut même envoyer, je dirais même d'autres bataillons, des militaires qui sont dans d'autres provinces, qu'on les envoie là-bas pour sécuriser cette population.
Fidel Moussaou, est-ce que vous partagez le même avis que Freddy?
Voilà, il faut maintenant mettre sur pied, on le dira combien de fois, une véritable armée moderne. C'est comme un parent qui ne surveille pas la santé de ses enfants. Il va les perdre.
Frédéric Ipani, comment vous analysez un peu plus rapidement cette actualité à partir de chez vous à Kikwit?
Oui, derrière, on ne comprend rien. Le massacre ne s'explique même pas. Parce que comment comprendre que pour une seule région du Kivu, disons les deux Kivu, les Sud-Kivu, les Nord-Kivu, hein, il y a tous les militaires de ces pays sont où c'est. Une grande partie, je peux dire qu'une grande partie de l'armée se trouve dans ce point. Ce n'est qu'une région. Hein? Mais comment on ne peut pas arriver à bout de tous ces tuyaux? Et en plus de ça, la MONUSCO, qui a une armée de plus de 17 000 hommes, comme on le dit, mais ils sont de ce côté-là. Comment est-ce qu'on ne peut pas terminer cette guerre à ce niveau-là? Moi, je pense que ces gens-là bénéficient de la complicité de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, si le comité international s'interpose, mais eh bien le Rwanda et l'Ouganda, peut-être ceux qui fournissent ces armes-là, ils ne pourront pas les faire. On a vu un peu aussi avec les M23, en dehors des efforts de l'armée nationale. Mais il y a eu aussi certainement l'implication de la communauté internationale.
D'accord.
Qui a demandé au Rwanda et à l'Ouganda peut-être d'arrêter cette guerre. Donc il y a ça aussi là-dedans.
D'accord.
Et pourquoi on n'arrive pas à le faire? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Tous les militaires se trouvent dans cette région-là. Comment on ne peut pas arriver à le faire? Et de deux aussi, moi je pense que tous ces rebelles-là, tous ces tueurs-là, mais ils vivent où? Ils viennent prendre la nourriture certainement dans des villages. Ils bénéficient aussi des complicités des villageois. Je crois que c'est le temps de sensibiliser les habitants de toutes ces localités pour qu'ils puissent casser leur mariage avec tous ces tueurs-là.
Merci beaucoup. Alors tout de suite, nous passons à notre premier thème de ce soir qui concerne le processus électoral. Et donc l'opération des dépôts des candidatures pour les élections provinciales a commencé mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Si l'engouement n'est pas au rendez-vous à Kinshasa à cause des préalables posés par l'opposition et l'élaboration des listes des candidatures dans les états-majors des partis politiques, à Goma au Nord-Kivu par contre, les acteurs politiques de la majorité de l'opposition, voire des indépendants, avaient pris d'assaut les bureaux de réception et les traitements des candidatures. Les détails avec vous, Pamela Amunazo.
Pour le premier jour à Goma, au Nord Kivu, un engouement inhabituel a été observé dans les installations de la CENI. Accompagnés des dizaines de leurs militants, des députés provinciaux en exercice de leur mandat, d'autres acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, ainsi que des candidats indépendants, étaient tous assis devant le bureau de réception et traitement des candidatures BRTC. Ils attendaient à tour de rôle pour retirer le formulaire à remplir et éventuellement déposer leur candidature. Par contre, à Mbandaka et à Kinshasa, il n'y a pas eu d'engouement. À Mbandaka, par exemple, 8 candidats ont retiré leur formulaire malgré la sensibilisation que la CENI a organisée en faveur des partis politiques pour faciliter cette opération prévue jusqu'au 5 mai prochain. Parmi eux, Radio Kapi a identifié 7 candidats indépendants et un seul membre de l'Alliance des démocrates humanistes, ADH, de Jean-Claude Baïndé. Et à Kinshasa, 5 indépendants et les représentants de 7 partis politiques étaient présents, selon le décompte du rapporteur de la CENI qui s'est félicité du début de cette opération. À la base de ce manque d'engouement, d'une part, les opposants disent attendre les préalables posés en rapport avec le calendrier électoral. Ces acteurs politiques soutiennent que les élections locales, municipales, urbaines se tiennent après 2016. Cet avis est partagé par le mouvement lumumbiste progressiste de Franck Diongo, les forces novatrices pour l'unité et la solidarité FONUS d'Olengankoy et le parti démocrate chrétien PDC, où par ailleurs la permanence est restée fermée. D'autre part, c'est la confection des listes de candidatures qui est à la base du manque d'engouement. C'est le cas des partis de la majorité présidentielle, comme le parti des écologistes congolais PECO, de Didas Pembe, UNAFEC, de Kyungwa Kumwanda, où les listes sont en élaboration. Entre-temps, la CENI n'entend pas modifier le calendrier électoral tel qu'il l'a élaboré, a affirmé ce jeudi le président l'abbé Apollinaire Malumalu.
Et aux dernières nouvelles, Pamela Munazo, nous apprenons qu'à Bunia, il n'y a pas d'affluence dans les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures depuis le lancement officiel de cette opération. Selon le secrétariat exécutif provincial de la CENI, des nombreux candidats militants des partis politiques n'ont pas encore obtenu mandat de leur formation politique. Et d'autre part, il y a des candidats qui remettent en cause le montant de 500 000 francs congolais fixé pour la caution. Je retourne vers mes invités. Freddy Mwamba, quelle lecture vous faites de cette opération?
Moi, je pense qu'en ce qui concerne, par exemple, la majorité présidentielle, c'est parce que les choses ne se sont pas encore précisées. Pour ce qui est, bien sûr, des élections présidentielles...
C'est la confession des listes des candidatures.
C'est-à-dire quoi? Ça se lit. Moi, je me dis qu'ils ne savent pas comment les choses vont se passer en 2016. Y aura-t-il dauphin, y aura pas dauphin, ou comment les choses vont se passer? Alors ça, ça peut aussi être à la base de ces manques d'engouement. Il y a aussi, comme vous venez de dire, la confection, bien sûr.
Des listes, oui.
Il y en a qui sont encore en train de concocter les listes des candidats. Encore à ce niveau-là aussi, il y a des problèmes. Il faut chercher à savoir qui placer où, qui a l'ancrage populaire et tout ça là, qui peut gagner les élections et tout. C'est pas une moindre des choses. On ne peut pas faire ça en un tour de main. Surtout qu'on sait aussi que généralement les choses se font ici chez nous en dernière minute. C'est à ce moment-là que vous allez voir les gens se ruer. Mais du côté de l'opposition, c'est tout simplement parce qu'ils avaient apporté un contre-calendrier. Ils ont souhaité qu'il y ait un contre-calendrier électoral. Ils ont proposé un contre-calendrier électoral qui n'a pas été pris en compte.
Hein,
c'est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas courir pour aller à ces élections. Ils ont voulu qu'on commence d'abord par les élections présidentielles. Et Malou Malou qui dit difficile de faire machine arrière, les trains sont déjà en marche, c'est irréversible et vous devez vous préparer même spirituellement et tout.
Voilà. D'accord. Alors Fidèle Moussangou, vous, non. Votre analyse, elle est comment?
Non, je ne suis pas étonné de voir qu'à Goma, les gens se précipitent. Ou dans le sud, les trois provinces là, même le Bas-Congo, qui ne seront pas démembrés. Les gens peuvent faire, parce qu'ils connaissent bien le nombre de sièges. Mais nous qui sommes, Kinshasa peut-être aussi, mais les autres provinces hésitent. Là, elle n'est pas au Katanga. Je veux dire que si Malou Malou là persiste avec son histoire de dire que non, on ne touche pas, est-ce qu'il sera responsable du sang qui va couler à cause de ça? Parce que les gens ne sont pas d'accord. Avec les découpages, ils ne sont pas d'accord. Je veux dire que si on continue ça, la guerre va éclater au Congo. Et si c'est ce que le régime veut pour glisser, alors là, il est mal pris. Parce que, vous savez, on sait comment commence une guerre, on ne sait pas comment
elle finit,
elle termine et qui la règne. Parce qu'ici, j'ai les efforts de la famille présidentielle et de parvenir au glissement. Ils ont essayé avec la loi électorale. Les gens ont marché, il y a eu beaucoup d'hommes. Et les fosses communes de Maloukoula peuvent contenir des gens qu'on a exécutés pendant les trois journées fatidiques. Parce que, moi je parle, monsieur, les familles commencent à réclamer les leurs. Et moi je vous parle, toutes les organisations de défense des droits de l'homme sont à Kinshasa pour investiguer. Et l'ONU a demandé qu'on exhume le corps. Et Kinshasa se réveille mal dans des contradictions.
Donc, pour vous, c'est pas des éléments
comme
ça
commune, qui peuvent, oui. On apprend que nous sommes assis sur des charniers. Que l'année passée, 500 personnes étaient enterrées clandestinement. Et tous sont des indigents. Oh, nous sommes à l'Ogaden ici.
C'est pour
vous
dire
ceci.
Oui.
Les gens hésitent et les gens se préparent à faire autre chose que la paix.
D'accord. On va poser la question à Frédéric Ipani. Est-ce que Frédéric, chez vous, à Kikwit, est-ce qu'on sent déjà cet engouement vers les élections? Alors Frédéric,
vous savez, jusqu'à ce jour, disons jusqu'à hier soir, je crois qu'on a identifié au moins deux formulaires pour deux partis politiques et deux aussi pour des indépendants. Hein. Okay. Il n'y a pas eu d'engouement, mais les gens se sont présentés le premier jour rien que pour venir voir si effectivement on a ouvert les bureaux pour la délivrance des candidatures ou pas. C'est ça ce qu'on a fait remarquer le premier jour. Mais pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas d'engouement, les gens attendent encore. Vous savez que il y a des gens qui ont même soulevé un autre problème, c'est celui du montant, de la caution là. Vous savez que si les partis politiques peuvent endosser la caution de leurs candidats, mais il n'en est pas de même des indépendants. Vous savez que dans une région comme celle de Bandundu, ce n'est pas facile pour un enseignant ou pour, je ne sais pas moi, un infirmier ou n'importe qui là, de trouver $500 pour verser. C'est vraiment un problème, Béry.
D'accord. Alors, mais finalement, j'ai une question sur laquelle j'aimerais qu'on essaie de réfléchir. Est-ce qu'on n'a pas peur d'aller aux élections, Fidèle Moussangou?
Non. Le problème fondamental, c'est le problème du découpage territorial qui envenime toute la situation et qui risque de créer une guerre ici au Congo. La guerre peut traiter au mal autre. Je vous parle dans la province d'origine du président de la République, le Katanga. Les Katangais ne veulent pas de cette affaire, malgré le mensonge qu'on a vécu le 20 ans. On a menti. Moi, je suis en parti Katangais, là. Ils ne veulent pas de découpage. Et ils le disent au président.
Donc, pour vous, élections sont liées au découpage?
Oui, parce que bon, si maintenant vous dites que non, on a même voté la loi de programmation des provinces, les nouvelles 26 provinces. Eh bien, maintenant, les gens vont se présenter candidats où? Quel est le nombre de sièges? Parce que pour les 11 provinces, on était arrivé à avoir autant de... Maintenant, pour les 26 provinces, surtout les provinces qui ont des membres.
Prenons le cas. Nous sommes dans un cas où la majorité hésite encore un tout petit peu. L'opposition ne veut pas pour les raisons qu'elle avance. Est-ce que c'est là que je me pose la question? Je vous pose la question. Est-ce que finalement la classe politique en RDC n'a pas peur d'aller aux élections?
Non, regardez l'analyse de Tundula qui a saisi la Cour constitutionnelle. Tundula n'est pas n'importe qui. Bon, non, il a posé un problème fondamental. Parce que lui, il est du Sankuru. Bon, il s'est dit, mais moi j'ai des candidats à travers le Congo, dans les provinces à démembrer. Il s'est posé un problème de faisabilité de ces frères. Donc on fait des choses contradictoires. Parce que même la loi, le calendrier là-bas, si la Cour constitutionnelle veut dire le bon droit, va dire non, il y a contradiction entre le calendrier électoral et le découpage territorial. Donc il faut recommencer, donc il faut arrêter. Mais si on continue à faire du... On fait plaisir au régime en place, qui est finissant et vieillissant, eh bien, nous allons vers la guerre.
D'accord.
Et celui qui va provoquer cette affaire-là va payer le prix. Ça peut être Malou Malou qui commence à bomber les torses dans un domaine où il devait quand même jouer le rôle d'un type neutre et il prend parti. Là, c'est grave pour Malou Malou.
D'accord.
Je suis malheureux pour lui.
Voilà, on va donner la parole à Freddy. Freddy Momba, est-ce que selon vous, la classe politique n'a pas peur d'aller aux élections?
Moi, je pense qu'il y en a qui ont effectivement peur d'aller aux élections parce qu'ils ne savent pas.
De quoi se rappelle le lendemain?
Oui, c'est ça. Il y en a qui ont peur, mais d'autres n'ont pas peur d'aller aux élections. Tout simplement, c'est à cause des éléments que nous venons de relever ici. C'est-à-dire que d'autres estiment qu'ils ne sont pas prêts financièrement. C'est le cas de le dire, qu'ils ne sont pas financés suffisamment, qu'ils pensent que s'ils allaient à ces élections, comme ça, les choses ne vont pas marcher. Parce qu'il faut faire la campagne. Il faut pas tellement aller aux élections, il faut faire la campagne et tout ça. Est-ce qu'ils ont le moyen pour... Et d'autres aussi ne croient pas aussi à l'organisation des élections. On parlait à un certain moment des contraintes financières. Même si Malou Malou dit aujourd'hui que ces problèmes ne se posent pas, mais il y en a qui ne croient pas à ça, qui aimeraient d'abord voir comment les choses vont être sauvées, qui préfèrent observer de loin que s'engager comme ça directement dans ces processus.
Avec la position de l'opposition, est-ce que vous pensez que malgré la position du président Abbé Apollinaire Malou Malou pour ne pas réviser le calendrier électoral, vous pensez que les opposants peuvent aller quand même déposer leur candidature?
Quelques opposants ont même déjà commencé, mais timidement, très timidement. Il y en a qui ont très timidement. Mais il faut, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, que c'est une question vraiment fondamentale. Celle d'être sûr comment les élections vont se dérouler. En tout cas, les opposants n'ont pas foi en ces élections. C'est pourquoi ils ne veulent pas se précipiter, aller à ces élections. C'est tout à fait normal, c'est leur ligne, la ligne politique de l'opposition a toujours été celle-là depuis toujours. Je ne sais pas s'ils ont changé. C'est d'être aux antipodes de ce que fait le pouvoir. Le pouvoir soutient la Commission électorale nationale indépendante. Le pouvoir est prêt même à financer aussi ces élections. Mais il reste que chacun joue ses parties comme il faut pour que ces élections aient effectivement lieu. Donc moi je pense que l'opposition continue à être dubitative. Elle ne croit plus aux élections, c'est pourquoi elle hésite de se lancer dans ces élections. Et il y a cette revendication que j'ai soulevée tout à l'heure. D'abord les élections présidentielles et puis le reste vient après. J'espère qu'ils sont dans cette logique-là. Il y a les vieux fidèles.
D'accord, je sais que Fidel veut réagir. Mais je veux d'abord poser la question à Frédéric Ipani qui est à Kikwit. Est-ce que, selon vous, la classe politique locale, est-ce qu'elle a peur des élections? Comme je venais de poser la question à vos deux autres co-débatteurs ici.
Oui, Berry, mais il y a lieu quand même de se poser la question, quand est-ce que ces politiciens auront foi, ces gens de l'opposition auront foi en ces élections? Parce que vous voyez, je vais vous donner un exemple plus concret. Bon, chez nous ici, on aime des réunions, des dialogues, des rencontres de tout genre, et souvent, généralement, ça ne produit rien. Quand la CENI avait publié la première mouture là, du calendrier électoral, tout le monde n'était pas d'accord. Personne n'était d'accord. Même
c'était un calendrier partiel.
Même la communauté internationale. Tout le monde a réclamé, a exigé la publication du calendrier global. Maintenant, et entre la publication du premier calendrier et du second calendrier, aucun politicien n'a bronché. Personne n'a apporté une idée nouvelle pour dire non, ces élections vont être irréalistes.
Mais Freddy, mais Frédéric,
aucun politicien n'a suggéré quelque chose. Maintenant que Malumalu rend public le calendrier électoral global, est-ce maintenant des protestations partout? Comment on peut justifier ce genre d'histoire?
Mais Frédéric, je crois...
encore hier, Berry, quand il disait que non, on ne doit pas changer. Et moi, je crois que... Moi, je suis de son avis. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je suis même de son avis. Parce qu'on va changer, on va changer. Et on va changer jusqu'où? Quand est-ce qu'il y aura des bonnes relations dans ce pays? Des bonnes élections dans ce pays? Il faut qu'à un certain moment, qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on se mette ensemble pour trouver une solution finale.
D'accord.
Et ce n'est pas en ce moment ici. Ce n'est pas en ce moment qu'il fallait se réunir. Il fallait que l'opposition et même les gens de la majorité ensemble se réunissent avant même que Malumalu ne publie la première mouture là. Maintenant que tout a été fait, mais finalement. C'est comme on a dit, ah non, nous ne sommes plus d'accord avec les élections municipales, nous privilégions les élections provinciales, législatives et présidentielles. Mais pourquoi? Mais à un certain moment, tout le monde exigeait des municipales. Tout le monde voulait qu'on commence par les municipales. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie ce volte-face des politiciens congolais?
D'accord, merci, c'est la question que vous posez. Je reviens à vous, ce sera la dernière question pour finir avec ce premier thème. Tout en réagissant, Fidèle Moussangou, j'aimerais que vous puissiez apporter votre contribution, votre solution pour aller aux élections apaisées.
Écoutez, confrère, il ne faut pas se cacher la face et pourtant commencer à mentir publiquement. Il faut être réaliste et honnête. D'après les estimations de Malumalu lui-même, il faut 2 milliards de dollars, quoi.
Mais à peu près.
Nous n'en avons pas. Qui va lui donner? Qui? Le gouvernement n'en a pas. Et la communauté a déjà répondu. Nous allons aider, mais pas ces 2 milliards de dollars. Oui, c'est pour ça. Alors, vous avez un calendrier qui demande un investissement comme ça. Vous n'en avez pas. Et vous vous accrochez. Alors, Malumalu, il y a un problème dans sa tête. Il y a un problème, ce jeune homme-là. Il y a un problème. Parce qu'il y a ceci. Je lui avais dit un jour, fais attention, jeune homme. Parce que tu joues ta carrière et ta vie. C'est l'avenir des millions de Congolais. Et il ne veut pas. Lui, il devait être quand même quelqu'un beaucoup. En tant qu'abbé, j'espère qu'il est encore abbé. Hein? Il devait être sage. Et dire au président de la République, président, il faut un consensus avec la classe politique. Avant que je puisse me calendrier. Deux, il connaît les finances du pays. Alors on avait dit, hein, pourquoi on n'avait pas fait ces élections entre novembre 2011, disons en 2012, 13, 14.
Oui.
On aurait pu déjà faire les locales, les municipales.
Oui.
Ça c'est même le recensement. On ne fait pas 4 ans. Lancer le recensement général à partir de 2012. On aurait aujourd'hui le recensement fait. On aurait, disons, 85%
maintenant,
du temps. Alors maintenant, c'est ici.
L'opposition
a présenté un programme réaliste.
Mm-hmm.
Laissons tomber les municipales, locales, territoriales. Faisons les élections provinciales qui vont nous donner les députés provinciaux, les gouverneurs et les sénateurs. Ensuite, l'année prochaine, on fait les élections législatives et l'élection présidentielle. Alors, le prochain régime va maintenant lancer maintenant le recensement général qui peut prendre 4 ans. Et quand on aura les recensements généraux, on peut maintenant envisager de faire les locales, municipales et territoriales. Entre-temps, le prochain régime va mettre les moyens pour rendre les provinces, les 26 provinces, d'être réalisables en faisant, en mettant en place un programme de construction des infrastructures administratives, tout ça. Mais
d'accord.
On ne va pas aller comme ça, on ne fera pas tout en une fois.
D'accord.
Alors c'est ça, je dis, voilà, il faut revenir au bon sens, à la vérité. Les provinciales, oui. Et les autres, là, attendront.
D'accord. Merci beaucoup. C'est ça pour vous, la solution pour aller vers les élections apaisées. Freddy, quelle est votre solution pour aller vers les élections apaisées?
Moi, je pense que pour l'instant, parce que les élections, la machine est déjà en marche. Moi, je pense qu'ils doivent d'abord aller aux élections. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, soyons réalistes, on peut tout dire. À ce stade ici, on ne peut pas organiser, par exemple, un dialogue pour que les gens se mettent encore sur
la même table. Oui.
Moi, je pense qu'ils peuvent d'abord aller aux élections locales, oui. Quitte à voir la suite, comment elle va se passer et comment elle va se passer la suite. Après, on peut maintenant voir
après les élections locales, parce qu'il faut d'abord apurer les... Ça a toujours été les souhaits aussi de l'opposition quelque part. Il ne faut pas qu'on continue à ronronner, à tourner en rond, à dire non. Il faut à un certain moment qu'il y ait une certaine évolution. Il faut commencer toujours quelque part.
D'accord.
Moi, je suis dans cette logique. Commencer quelque part.
Donc, pour vous, on peut mettre déjà commencer.
On
déjà
commence
un bon
d'abord,
pas.
C'est déjà un départ. Parce qu'il y a un départ. À ce stade, il est question d'être pragmatique.
D'accord.
Ne nous lançons pas dans une histoire, dans une approche énigmatique pour dire maintenant, alors que les autres ne sont pas prêts à prêter les flancs.
D'accord. Alors, Frédéric Ipani, en un mot, en une minute pratiquement, parce qu'on doit déjà passer à notre deuxième thème, quelle est selon vous la solution pour aller aux élections apaisées?
Non, mais est-ce que vous pensez, moi je ne pense même pas que les élections seront toujours apaisées dans ce pays. Non, avec les comportements de la classe politique actuelle, il n'y a même pas d'espoir pour dire que tout sera, ça va se passer dans l'apaisement. Non. Hein? Je voulais revenir à quelque chose de Béry.
Oui.
Mais je crois que le développement part quand même de la base. Comment on peut négliger ce secteur, ces cités, tout ça? C'est la base quand même. Hein? Vous voyez l'état dans lequel la population vit maintenant. Hein? Il faut prêcher le développement à partir de là, donc on ne peut pas négliger ces élections. Pourquoi on tient absolument à les ramener plus tard? Hein, il faut commencer par ici, par la base. Hein, vous vivez à Kinshasa, mais vous ne connaissez pas ce qui se passe dans des villages ici. Hein, vous ne savez même pas est-ce qu'il y a des routes, comment les gens circulent, comment les gens mangent. C'est difficile.
D'accord.
Il
alors...
faut commencer par prêcher le développement au niveau de la base. Il faut
Merci.
Que la base, il faut qu'au niveau des secteurs, il y ait quand même des conseils, des secteurs, des conseils, des territoires, tout ça, pour pouvoir quand même relever le niveau de vie des gens.
Merci beaucoup.
Voilà un peu ce que je pense.
Voilà, alors nous passons rapidement à notre deuxième thème de la soirée qui concerne les attaques xénophobes en Afrique du Sud. Les Congolais qui résident dans la ville de Durban en Afrique du Sud sont victimes ces derniers temps des actes xénophobes. D'après les témoignages en provenance du pays de Nelson Mandela, recueillis par Radio Kapi justement, les jeunes Zoulous tabassent à mort des Africains et des Congolais en particulier pour des raisons inavouées. Ils saccagent les biens et surtout les commerces. Et l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud confirme ces faits qui, selon lui, se commettent sous le regard passif de la police sud-africaine. C'est un dossier qui porte la signature de notre confrère Askenzik Biatayoro.
Des échos à provenance de l'Afrique du Sud fait état de violences physiques sur des Congolais à Durban. Plusieurs Congolais vivent confinés dans des maisons, ne savent plus vaquer à leurs occupations au quotidien. Ils craignent d'être tabassés, brûlés vivants sur des voies publiques par les jeunes Zoulous. Les Congolais Toubi Kouketouka, résident à Durban, en fait ici le point.
Sur le terrain, la situation est terrible. Tous les Congolais sont internés dans leur maison et il y a l'histoire de xénophobie. Si tu rentres dans les taxis, on peut te prendre et te tuer. Donc ici, il y a que la tuerie. Ils volent, ils tuent les étrangers. Ils disent que nous quittons leur pays parce qu'ils ne veulent pas les étrangers de rester dans leur pays. Celui qui a donné le mot d'ordre de quitter le pays, c'est King Swati. C'est le descendant de King Shaka.
L'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud déplore ces atrocités qui, selon lui, n'ont pas leur raison d'être. Bene Poko.
Conversation avec la police, mais ce que moi j'ai pas compris, que quand il y a des attaques, les policiers là, ils sont là comme des spectateurs. Ils n'interviennent pas. On a donc porté ça à l'attention des autorités tant nationales que provinciales pour qu'on puisse arrêter ça, ces exactions le plus vite possible.
Sachez qu'un mouvement similaire avait eu lieu en 2009 où plusieurs Congolais ont été visés et perdus de biens de valeur.
Et je note aussi que le président sud-africain Jacob Zuma a appelé au calme face à ces exactions. Fidel Moussangou, est-ce que vous comprenez cette action des actes xénophobes en Afrique du Sud?
Vous savez, nous sommes en face de deux pays qui sont pratiquement orphelins. L'Afrique du Sud a un président Zoulou, mais un président délinquant. Je pèse les mots, délinquant. Un comportement qui te sa derrière. Quelqu'un qui change des femmes comme des chemises. Quelqu'un qui est accusé par la classe politique d'avoir détourné des fonds pour construire sa villa. Je ne sais pas s'il va créer un bunker. Et le dossier est là. Alors, vous trouvez ce nom normal? Deuxième élément, la police devrait être quand même le miroir
du pays.
Mais la police sud-africaine est complice. D'abord, la corruption a commencé à atteindre... Donc, la corruption sévit en Afrique du Sud. Vous savez qu'il suffit d'avoir 500 dollars, vous avez un visa de 6 mois. Ça s'achète, moi j'étais en Afrique du Sud il y a deux ans, ça s'achète là à Béréa, à Ilbrou, 500 dollars. Et si vous entrez en Afrique du Sud, vous entrez par le bus, vous payez 500 dollars à l'entrée, vous avez le visa de 6 mois. la corruption atteint des proportions. Les Sud-Africains maintenant découvrent le goût du lucre, et avec ça ils construisent sa maison, ils achètent une voiture. Alors c'est le deuxième élément, quand la corruption maintenant atteint le niveau là-bas, c'est que la police devient du corrompu. Autre chose, la xénophobie en Afrique du Sud date. Moi j'étais là, la première fois au dialogue, j'ai fait l'Afrique du Sud en 2012, 2002, 2003, 2004 et 2006, j'en sais quelque chose. Déjà à cette époque, il ne fallait pas exhiber même un appareil de télécommunication. On voulait arracher. Et comme chez eux, ils jouent avec la mort. J'ai vu comment on a tué quelqu'un à Ilbro. J'ai paniqué. Maintenant, nous avons aussi le Congo, où nous sommes aussi orphelins. Une situation pareille devrait pousser le président Kabila de faire le déplacement de Jobu et d'aller taper du poing sur la table et rendre les autorités sud-africaines responsables de ce qui adviendrait au résultat congolais.
D'accord.
Alors c'est pour vous dire que ceci, notre gouvernement est faible, à commencer par le président de la République ferme, qui ne dit rien. On sait pas, il ne dit même pas un mot, même pas un message de compassion, même pas une journée de deuil national. C'est dangereux. Nous sommes des orphelins. Mobutu, oh là, il dit ça en vrai. Et il ferait même un meeting, ça ferait peur. L'Afrique du Sud a besoin de nous. Ils ont besoin du courant. On dit là, monsieur, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas votre courant.
D'accord. Alors, Freddy Mwamba, est-ce que vous comprenez, vous aussi, ces attaques xénophobes?
Je me pose la question de savoir où est passé l'héritage Mandela. Mandela, on l'appelait le père
de la nation
arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il était pratiquement le vecteur d'une Afrique composite. Et ça m'étonne comment, aujourd'hui, les Sud-Africains peuvent s'adonner à la xénophobie. Et il y a ce qu'on appelle la lutte, vous savez, la lutte contre les chômages, elle est des objectifs majeurs d'une politique globale d'un pays. Vous comprenez? Ils sont en train de dire que non, c'est parce qu'il y a le chômage, parce que j'ai suivi sur TV5 certains Sud-Africains en train de dire que c'est parce qu'on leur a volé du boulot par d'autres étrangers, c'est comme ça que
notamment
ils sont
des Congolais.
Attaqués. Pas seulement des Congolais, j'ai vu un Somalien en train d'être caillassé par les Sud-Africains, il y a même le commerce des Somaliens aussi qui sont fermés, donc on s'attaque à tous les étrangers qui sont là là-bas en Afrique du Sud. Il faut dire qu'il faut qu'il y ait une politique de l'emploi précise. Les marchés de l'emploi posent problème. Lorsqu'il y a accroissement de la population active, il y a déclin de l'emploi. C'est ça le problème qu'il y a en Afrique du Sud. Donc il n'y a pas une bonne définition de la politique de l'emploi et ça crée une hystérie collective. D'accord. Les gens sont en train de s'énerver, ils s'attaquent les uns contre les autres, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc tout ce que Mandela, les valeurs cardinales véhiculées par Mandela aujourd'hui ne parviennent pas à garder les rodeurs de cet été. Je déplore ça.
D'accord. Alors Frédéric Ipani, comment vous comprenez ces attaques xénophobes en Afrique du Sud?
Oui, Berry, c'est quelque chose normalement qui ne devait pas se faire, hein, surtout contre les Congolais. Vous savez que l'Afrique du Sud, c'est quand même un pays qui entretient de bonnes relations avec la RDC. Vous avez vu même du vivant de Mandela, celui qui a facilité le contact entre Laurent Désiré Kabila et Etienne Mobutu. Et après Mandela, tout Thabo Mbeki et consort, aujourd'hui Jacob Zuma. Tous ces gens ne cessent de défiler et leurs ministres ne cessent de défiler à Kinshasa. Donc ils ne devaient pas avoir ce comportement. Et ces Sud-Africains ont oublié une chose aussi, Berry. C'est que pendant leur temps difficile, pendant l'apartheid, ils ont quand même eu l'appui de tous ces pays africains.
Notamment la RDC.
Ils ont compati à leur malheur. Donc ils ne devaient pas se comporter de cette façon-là, malgré le chômage qu'il y a chez eux. Est-ce que maintenant, sont-ils en train de pousser les Congolais à chasser aussi les Sud-Africains ou à saboter les investissements des Sud-Africains?
Donc, d'accord.
Cela ne devait pas se faire.
Alors,
si
Fidel,
quelque chose qui ne va pas, il devait s'adresser à notre pays.
Frédéric,
soit expulser ces gens-là, mais d'une façon régulière et normale.
D'accord,
hein,
Frédéric.
Ça ne peut pas se faire qu'un bon matin, les gens se lèvent, ils vont détruire les affaires des Congolais ou des Africains. Ils vont tuer les Congolais. Non, ce n'est pas faisable.
Alors,
moi,
Frédéric,
je crois
on
que
va.
Le pays doit prendre des dispositions pour signifier cela à Jacob Zuma pour que cette histoire s'arrête, Berry.
D'accord. Alors on va terminer parce que nous allons déjà conclure cette émission. On va conclure d'abord par vous, Fidèle Moussangou, et même vous l'avez proposé. Il faudrait que le président de la République prenne des mesures pour empêcher ou pour décourager ces mouvements. Quelle est votre conclusion? Je crois que c'est ce que vous avez dit en termes un peu moins précis. Est-ce que vous pouvez conclure carrément?
Allô?
Je disais ceci, on va conclure maintenant parce qu'on est arrivé à la fin de notre émission. Quelle devrait être la part de notre gouvernement en pareille situation?
Non, Berry, je pense que le gouvernement est en droit de réagir parce que c'est quelque chose. Vous voyez, c'est quand même, il y a eu mort d'homme. Et les Congos ne peuvent pas observer les choses comme ça. Et que ces ressortissants qui sont ailleurs puissent être objet de tueries, objet de vandalisme. Et les Congos en train d'observer, ce n'est pas possible. Il faut signifier cela, soit par voie diplomatique ou directement vous allez rencontrer le président Jacob Zuma pour lui exprimer des inquiétudes de la part de la RDC.
Merci, ce sera ça votre conclusion. Et Freddy Mwamba, votre conclusion sur cette question, que devrait faire le gouvernement par cette situation?
Non, à ce que je sache, il n'y a pas d'atome crochu entre le président congolais et le président Zuma. C'est deux personnes qui s'entendent parfaitement bien. J'espère que notre président va aller voir son homologue pour essayer d'avoir des explications de son homologue sud-africain sur ce que les Congolais qui sont là-bas sont au fait en train de subir. Et si aujourd'hui dans notre pays nous avons un ministère qu'on appelle le ministère des Congolais des étrangers, je pense que c'est parce que parmi les priorités aussi du gouvernement, il y a aussi cette protection diplomatique qui devra que nos compatriotes qui sont à l'étranger devront bénéficier du gouvernement. Donc la mère RDC doit réagir en ce moment.
Merci beaucoup, c'est ça votre conclusion. Fidèle Moussangou, vous aussi, la RDC doit réagir.
Le pays doit prendre des pressions énormes sur le Sud-Africain, à défaut de saisir le Conseil de sécurité et amener tous les États d'Afrique de condamner le gouvernement sud-africain. Officiellement, faire une pression. Ensuite, il faut que nous aussi, nous apprenions maintenant à faire en sorte que nos compatriotes ne puissent pas aller à l'étranger, faire des petits boulots pour se vivre. Donc si nous avons une bonne économie, on n'aura pas de... Parce qu'ils vont chercher du travail. C'est la misère qui pousse à faire ça.
D'accord. Merci. C'est sur cette note que la tribune de ce soir prend fin. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son. La coordination de cette édition était assurée par Guy Maté, Berry Franklin, Luchaka vous l'a présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Retrouvez cette émission sur votre site www.radiocapi.net et excellentes conditions d'écoute sur la fréquence de la paix.